Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invitée Nathalie Arthaud, tête de liste pour Lutte ouvrière. Elle est interrogée par Pierre Bienvaux de la Croix, par Romain Masneau de RCF et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Voilà 10 ans que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Vous avez à votre actif déjà plusieurs campagnes électorales, notamment comme candidate aux élections présidentielles de 2012 et 2017. Des campagnes que vous avez menées tout en continuant votre métier de professeur de lycée en région parisienne. À chaque fois, vous obtenez moins de 1% des voix, mais cela ne vous décourage pas. Votre détermination, vous la puisez aussi dans votre origine, dans votre histoire familiale. Vous êtes fille d'un garagiste de la Drôme. Avant d'adhérer à Lutte ouvrière à 18 ans, votre engagement a été influencé par le catholicisme de vos parents, avez-vous dit. Des gens généreux qui vous ont appris, à travers cette religion, le sens des autres et de l'indignation. Alors, avant de commencer les questions politiques et économiques, une première question, Nathalie Arthaud, sur l'Europe que vous voulez, que vous désirez. Quel est votre rêve d'Europe? Ou votre cauchemar d'Europe? Je ne sais pas.
Je crois que nous sommes peut-être les seuls, la seule liste dans ces élections européennes à aspirer réellement à une Europe unie, une Europe sans frontières et sans exclusives. Hein, aujourd'hui, y compris cette construction européenne, c'est même pas l'Europe unie, hein, c'est qu'un bout du continent européen. Nous aspirons à une Europe de la coopération des peuples, fraternelle. Et nous pensons que d'ailleurs toute la réalité économique, sociale, culturelle conduit dans ce sens. Les économies sont complètement imbriquées, les peuples sont entremêlés depuis fort longtemps. Donc nous aspirons, nous, à ce qu'il n'y ait plus de frontières, à ce qu'il n'y ait plus ces barbelés, ces murs qui séparent les peuples les uns des autres. Maintenant, nous sommes absolument convaincus que dans cet ordre social qui est dominé par ces grands groupes capitalistes et qui est régi par la concurrence, par les rivalités économiques, cette Europe-là, elle est impossible. Mais notre aspiration, c'est celle-là. C'est, vous savez, nous sommes internationalistes. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que ma terre, c'est... mon pays, c'est la terre. Voilà.
Et
ma patrie, c'est l'humanité. Donc vous voyez que je suis pour une Europe et un monde véritablement unis.
Vous disiez plus de frontières à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe ?
Plus de frontières. Vous savez, y compris cette Europe qui s'est construite comme une forteresse, coupant les Européens, par exemple, et nous coupant, nous, du Maghreb, alors que nos liens avec le Maghreb et avec l'Afrique sont si importants. Alors que, effectivement, ces frontières, on les a allègrement franchies au temps de la colonisation, sans demander l'avis du peuple algérien, du peuple tunisien ou marocain. Hein, et puis, ces peuples qu'on a mis à contribution pendant les deux guerres, en formant des armées indigènes. Donc, moi, quand je vois tous ces liens qui ont été tissés, alors effectivement, dans le sang, dans la violence, pendant de longues années, pendant des décennies entières, tous ces liens, ils existent. Nous sommes les héritiers de ces liens-là. Et moi, je ne comprends pas qu'on veuille effectivement aujourd'hui couper, y compris des familles, en deux, couper et mettre des frontières infranchissables.
On en reparlera dans la troisième partie de cette émission de ces questions migratoires. Nathalie Arthaud, d'abord, Pierre Bienvaux vous interroge sur les questions politiques.
Alors, dans votre brochure de campagne, vous dites « les élections n'ont jamais permis de changer le cours des choses ». Alors, c'est une position habituelle de Lutte ouvrière, mais pourquoi se présenter à des élections si ça ne change rien ?
Parce que, vous savez, les travailleurs, les exploités, les plus pauvres, ils n'ont jamais droit à la parole. Leur sort n'intéresse que très très peu les gouvernants. C'est la réalité. Si aujourd'hui nous parlons du pouvoir d'achat, des petites pensions de retraite, si nous parlons de cette précarité, ces fins de mois difficiles, c'est parce qu'il y a eu pendant 4 mois des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui se sont levés au travers du mouvement des Gilets jaunes. Sinon, on n'en parlerait pas. Sinon, la vie politique continuerait, tournerait sur elle-même dans ce petit monde-là de politiciens. Donc la réalité, c'est qu'il faut que les travailleurs s'emparent de tous les combats politiques et donc de toutes les élections, pour dire leurs revendications, pour dire nous existons, nous faisons tourner la société, il est absolument intolérable que tout en travaillant dur, on n'arrive pas à vivre correctement, on n'ait pas une retraite correcte. Donc il faut le dire et il faut donc mener ce combat des idées, tout en disant que c'est un programme, effectivement, ce sont des perspectives, et nous le savons, ces perspectives-là, on devra les arracher. Pour les obtenir, c'est une question de rapport de force, c'est une question de lutte sociale, Et c'est toute l'histoire de la classe ouvrière. Hein, la classe ouvrière n'a jamais rien obtenu qu'en l'arrachant, qu'en l'imposant, effectivement, par en bas, au travers de soulèvements sociaux.
Alors, un mot sur la gauche en Europe. On voit qu'elle ne se porte pas très bien. Un certain nombre de partis socialistes, sociaux-démocrates se sont effondrés. Et à part le cas un peu particulier de la Grèce, on a le sentiment que la gauche radicale n'en a pas profité. On voit que Podemos est en recul en Espagne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le vote de gauche ou même le vote ouvrier se porte aujourd'hui sur des formations un peu populistes ou protestataires?
C'est une évidence que la gauche, dans laquelle nous ne nous mettons pas, lutte ouvrière, hein, nous ne sommes jamais revendiqués de la gauche, nous c'est le camp des travailleurs. Mais cette gauche, on l'a vu au pouvoir. Cette gauche, ça a été une gauche gouvernementale qui a effectivement prolongé la politique anti-ouvrière que la droite menait au pouvoir. Écoutez, qu'est-ce qui peut différencier, qu'est-ce qui a différencié la politique de Hollande à celle de Sarkozy? Et si on remonte dans le temps, hein, les différents gouvernements de Mitterrand, ça a été la grande désillusion pour la classe ouvrière, parce qu'effectivement, Mitterrand avait soulevé beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, cette idée qu'enfin, les travailleurs seraient respectés, et puis au bout du compte, ça a été effectivement tout pour refaire partir la bourse, les privatisations, enfin exactement la même politique anti-ouvrière. Donc c'est une réalité que cette gauche gouvernementale s'est déconsidérée aux yeux du monde du travail, et que y compris les partis qui portaient cette gauche, que ce soit le Parti socialiste, mais que ce soit le Parti communiste, ont perdu une grande partie de leurs militants, une grande partie de leur influence dans les classes populaires. Mais voilà, c'est le résultat de leur politique. Une politique que nous avons toujours dénoncée, parce que justement, tous ceux qui prétendent aujourd'hui arriver au pouvoir et changer le sort des travailleurs, sont des marchands d'illusions. Tous ceux qui sont au pouvoir, ils gèrent les affaires. Et les affaires, ce sont les affaires de Arnault, de Muliez, de Bettencourt, de Michelin, de Peugeot, c'est-à-dire les affaires de ces grands groupes capitalistes qui dominent au travers d'une exploitation toujours plus dure, parce que c'est la crise, parce que la concurrence, elle est féroce désormais sur les marchés internationaux. Et tout ça, c'est infligé, c'est imposé aux travailleurs. Donc oui. Ces gouvernements sont toujours dans cette logique-là, finalement, de se soumettre à cette compétition infernale, à cette loi du marché, et donc d'aller main dans la main avec cette minorité capitaliste pour faire reculer les droits des travailleurs. –
Pour bien comprendre, vous disiez tout à l'heure, les élections, c'est un peu pour vous une tribune. Là, vous dites, on n'est ni de droite ni de gauche. Est-ce que, pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que finalement, vous n'êtes pas plus un syndicat qu'un parti politique
Pas du tout, parce que nous visons à transformer la société, à la révolutionner. Nous sommes pour en finir avec cette société capitaliste, avec cette société qui est fondée sur le marché, la loi du profit, où c'est
Oui, mais vous voulez transformer la société en vous occupant que des travailleurs. Les autres ne vous intéressent pas. Vous avez cette population que vous voulez servir, mais pas les autres.
Mais écoutez, je ne sais pas si vous mettez ou pas dans le camp des travailleurs, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je suis enseignante, je me mets dans le camp des travailleurs. Je pense que les médecins, que l'écrasante majorité des femmes et des hommes de ce pays, qui travaillent effectivement pour gagner leur vie, qui contribuent à faire tourner la société, sont dans le camp des travailleurs, bien sûr. Mais regardez comment, finalement, notre sort, notre avenir, l'organisation de l'économie ne dépend pas de nous. Nous n'avons aucune prise là-dessus. La réalité, c'est que c'est une poignée de grands groupes industriels et financiers qui prennent toutes les décisions, qui organisent l'économie, qui contraignent la vie sociale. C'est cela que nous voulons renverser. Nous considérons comme complètement fou de voir une société qui, à la fois, n'a jamais été autant collective, autant socialisé d'un certain point de vue, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul. Notre travail individuel n'a de sens que intégré dans une longue chaîne du travail, avec imbriqué des échanges. Donc, toute notre vie, toute notre organisation est finalement collective. Mais Mais il y a une poignée de grands capitalistes qui, parce qu'ils possèdent effectivement des milliards de capitaux, peuvent effectivement influencer sur l'avenir de l'économie et de la société. Et ça, nous voulons le changer, nous voulons le renverser. Et nous estimons que les travailleurs, ils ne sont pas seulement capables d'obéir et puis de trimer, ils peuvent aussi décider, ils peuvent aussi participer aux décisions. Et ces décisions, elles devraient être collectives. On est communistes, nos perspectives, c'est des perspectives politiques d'un autre fonctionnement de la société.
Pierre Bienveau.
Alors, on sait que le NPA de Philippe Houtot et d'Olivier Besancenot a renoncé à faire campagne pour des raisons financières. Au départ, il vous avait proposé de faire liste commune. Alors, vous étiez chacun crédité de 1% des voix. Pourquoi avoir refusé cette alliance ?
Donc, nous avons effectivement discuté. Ils nous ont présenté la campagne qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire une campagne en mettant en avant un certain nombre d'objectifs sur le terrain économique, social, migratoire, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, et aussi profiter de cette campagne pour dénoncer les traités européens. Nous avons expliqué que nous voulions faire une campagne centrée effectivement sur les intérêts et sur le combat des travailleurs, et précisément une campagne pour dire que attention, les responsables aujourd'hui du recul que nous vivons, le monde ouvrier, ce n'est pas tel ou tel traité, ce n'est pas telle ou telle institution, et sortir des traités européens ou l'Union européenne ne changerait pas ce fait qu'on est tous confrontés à des salaires qui sont de plus en plus écrasés, à des cadences de travail qui sont aggravées, à des conditions de vie qui reculent. Mais ce n'est pas lié, c'est lié au fait qu'il y a une minorité, c'est effectivement cette classe capitaliste qui aspire de plus en plus de richesses à un pôle. Donc pour nous, c'est combattre le grand capital. Ce grand capital, il domine toutes les institutions, il est à l'initiative des différents traités. Donc on ne voulait pas, si vous voulez, faire une campagne contre les traités. On a constaté qu'on ne voulait pas faire la même campagne. On a dit, écoutez, on part chacun sur notre campagne, comme on le fait d'ailleurs régulièrement. Ce n'est pas un problème, on ne se sent pas en concurrence.
Merci Pierre Bienveau. C'est Romain Masneau qui va prendre la suite pour vous interroger dans ce Face au Gratien. Quel est votre objectif, si vous en avez un, de score? Vous n'aimez pas ce genre de questions, mais vous voulez aller au-delà d'1%, au-delà de 2%, 3% pour vous faire rembourser les frais de campagne, Nathalie Arthaud?
Et plus, si c'était possible. Ouais. Mais vous savez, y compris les scores que les sondages nous donne, proportionnellement à mes apparitions, à mes invitations télévisées, je peux vous dire que c'est beaucoup. Hein. Voilà.
Combien coûte une campagne comme ça pour Lutte ouvrière? Ça représente quoi?
C'est une campagne qui coûte très cher parce qu'il revient aux candidats, aux listes, de payer les bulletins de vote. Donc il faut compter 1 million pour mener une campagne comme ça. Donc effectivement c'est très cher. Et effectivement ça veut dire des efforts militants, des efforts financiers. Mais voilà, nous pensons, c'est un combat qu'on a à mener. Voilà, rien n'est jamais donné. Hein, on fait pas de cadeaux aux travailleurs pour rien. Il faut qu'ils se battent pour tout, y compris pour justement mettre en avant leur politique, défendre effectivement leurs intérêts au travers des élections. En tout cas nous c'est un combat qu'on mène.
Romain Masneau de RCF.
Quelle est, Nathalie Arthaud, votre analyse de la crise des Gilets jaunes? Est-ce que c'est d'abord une crise du pouvoir d'achat, des territoires?
On pourrait dire les deux. C'est une crise générale. C'est vrai qu'on est dans une crise. On ne s'en sort pas en réalité. On est dans une crise parce que le capitalisme est au bout du rouleau. Hein, en réalité, il n'y a plus de développement. Quel est le progrès social? On voit qu'il y a des progrès technologiques, il y a des innovations, la société, les chercheurs ouvrent des perspectives, mais tout ça est réservé à une minorité. Et quand on regarde la vie des gens, elle est plus dure. Elle est plus dure pour trouver du travail, pour se loger, plus dure pour se déplacer, même se faire soigner. Alors, dans les territoires ruraux, maintenant, se faire soigner, c'est extrêmement compliqué, parce qu'y compris, on ne trouve même plus de généralistes. Donc, c'est un ensemble, effectivement. Mais je crois qu'on est confronté à une société qui est bloquée, parce que, justement, les grands moyens de production, parce que les richesses, le pouvoir de décision sont concentrés dans les mains de quelques-uns. Et ils sont un véritable obstacle. Un obstacle pour que ces immenses richesses et ces possibilités de la société servent à tout le monde.
Est-ce que vous avez été choqué par la haine anti-flic qui s'est exprimée lors d'un rassemblement de Gilets jaunes le week-end dernier?
Ah bah, C'est sûr que dans cette manifestation, moi, j'étais davantage du côté de ceux qui expliquaient avec nous. Y compris un certain nombre de policiers, y compris de gendarmes, qui estiment que la situation, elle recule, et y compris pour eux, y compris qui sont confrontés aussi au bas salaire, se posaient. D'ailleurs, un certain nombre avaient dit leur sympathie vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Donc moi, je suis effectivement davantage pour dire, écoutez, avec nous, et voilà, maintenant, force est de constater que pendant toutes ces manifestations, il y a eu quand même des réactions extrêmement violentes, il y a eu une répression qui a été commandée par en haut, qui a fait énormément de blessés du côté des manifestants, et tout ça, je pense que ça a joué, bien sûr, dans cette tension qui s'est intensifiée au fur et à mesure des manifestations. –
Le 1er mai, vous serez dans la rue, Nathalie Arthaud ?–
Bien sûr, le 1er mai, nous serons dans la rue. Le 1er mai a toujours été porté par le mouvement ouvrier, depuis ses débuts, d'ailleurs par les premiers partis socialistes.
– Mais cette année, il y a un contexte particulier, il y a un risque effectivement de débordement avec ce qu'on voit avec le cours que prennent les manifestations des Gilets jaunes. Il va y avoir… comment vous sentez un peu les choses? À la fois les syndicats qui vont manifester, des Gilets jaunes peut-être, des risques de violence ?
Ah mais de toute façon, moi je pense qu'il faut prendre la parole, il faut se battre, il faut manifester, il faut dire ce que l'on pense et il faut effectivement s'organiser. Moi j'irai manifester pour défendre ma politique, pour défendre mes perspectives. J'irai pas manifester pour servir de masse de manœuvre à je ne sais qui. Et effectivement, Lutte ouvrière sera présente et on s'organisera de façon à ce que notre message, nos perspectives puissent être entendues dans cette manifestation. Mais il le faut encore une fois. Je peux vous garantir que c'est précisément parce que les travailleurs ne se battaient plus depuis des années et des années, avaient délaissé cette perspective de faire avancer notre sort collectivement, que nous avons reculé sur nos droits, sur nos conditions de travail, sur nos conditions de vie, sur y compris que nous avons reculé aussi moralement. Parce que ce qu'on constate, y compris dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça a été une bouffée d'oxygène pour des femmes et des hommes qui étaient condamnés à l'isolement, condamnés à vivre chacun dans leur coin, leurs difficultés. Et là, ils ont réalisé que finalement, ce qui leur tombait dessus, ce n'était pas du tout individuel, que ce n'était pas unique, mais que c'était effectivement un problème de société et qu'ensemble, ils pouvaient effectivement se transformer en force politique pour faire pression sur le pouvoir.
– Dans votre programme, vous prenez l'augmentation du SMIC à 1 800 € net, c'est ça ?–
Oui, oui.
– Net. Dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'il adviendrait de ceux qui touchent déjà, qui sont à ce niveau de rémunération? Eux aussi, ils verraient leurs revenus augmenter de manière significative ?–
Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, l'urgence, c'est de permettre à tous de vivre dignement. Et moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est y compris d'entendre le gouvernement nous expliquer que « Oh, mais il va aider, il va aider ». Les ouvriers à pouvoir mieux se loger, à pouvoir changer leurs fenêtres, à pouvoir se déplacer, à pouvoir faire le plein de carburant pour aller au boulot. Mais vous vous rendez compte, là, on parle de femmes et d'hommes qui travaillent, qui devraient gagner leur vie en travaillant et qui ne la gagnent pas. C'est ça la réalité de notre société. Et c'est ce qui est intolérable. Donc il faudrait au minimum, effectivement, le SMIC, mais les pensions de retraite. Parce qu'en fait, 1 800 €, c'est simplement qu'avec moins, on ne peut pas vivre dignement. On est tout le temps dans la peur, dans l'angoisse de ne pas y arriver, d'avoir la tête sous l'eau au moins
d'Alain Baron.
Vous êtes pour une diminution encore du temps de travail?
Oui, bien sûr, pour une diminution du temps de travail.
Donc les travailleurs, si je suis votre logique, doivent travailler moins mais gagner beaucoup plus, c'est ça?
Oui, les travailleurs doivent gagner et peuvent travailler moins et gagner beaucoup plus. Mais vous savez que dans cette société, ça arrive ça, Il y a une poignée de gens qui, sans rien faire, gagnent toujours plus. Vous savez que les actionnaires ont vu leur dividende augmenter de 14%. Vous connaissez un seul travailleur qui passe sa vie, qui laisse sa santé au boulot avoir une augmentation de 14%. Ça arrive. Il y a une poignée de gens dans cette société, qui vivent cette situation, ils travaillent de moins en moins et ils gagnent de plus en plus. Alors moi, ce n'est pas d'ailleurs seulement le problème qu'ils gagnent plus ou c'est pas seulement le problème des inégalités, même si en soi, je trouve ça révoltant. Mais le problème fondamental, c'est que ces gens-là, en plus, c'est eux qui décident de tout. C'est eux qui organisent, qui prennent les choix de qu'est-ce qu'on produit, comment on le distribue, avec qui, où. Et c'est ce que nous contestons, nous, communistes révolutionnaires, c'est que ces décisions fondamentales qui engagent l'avenir de la société et de l'humanité soient prises dans les mains d'une minorité, la classe capitaliste, qui concentre les capitaux, hein, alors même que ça engage notre avenir à tous.
Merci Romain Masneau. C'est Alain Barrault qui va conclure cette émission. Nathalie Arthaud, beaucoup d'argent est arrivé pour Notre-Dame de Paris, pour la reconstruire. Cette générosité, vous trouvez que c'est une bonne chose ou ça vous a choqué?
Bah, écoutez-moi, ça m'a choqué. Voilà, ça m'a choqué parce que vous comprenez, ce sont des grands groupes qui sont richissimes, qui travaillent avec une kyrielle de sous-traitants, qui en permanence suppriment des emplois, qui licencient. Et là, miracle, hein, il y a eu le miracle, ils ont été touchés par la grâce, effectivement, de, manifestement. Vous voyez, là, ça les a intéressés, on les a vus, mais en permanence, ce sont des groupes qui font de l'évasion fiscale, qui, encore une fois, aspirent finalement le fruit du labeur, de la sueur de la grande majorité. Donc moi, cette générosité-là, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, c'est facile. Moi, ça me fait penser à ces grands philanthropes, effectivement, qui gagnent des milliards et qui nous expliquent, voilà, ce sont des grands philanthropes. Mais comment gagnent-ils ces milliards? Moi, je fais partie, effectivement, d'une famille d'origine très populaire. J'ai vu mes parents travailler toute leur vie, travailler dur. Je suis entourée de femmes et d'hommes qui travaillent dur. Je peux vous dire qu'ils ne gagnent pas des millions, hein, des millions, et loin de là.
Alain Barrault, Radio Notre-Dame.
Juste un mot pour continuer là-dessus. Ces sommes énormes annoncées, c'est quand même pour le bien commun. Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir à eux. Les grands groupes que vous dénoncez, c'est quand même pour le bien commun.
Oui, mais pour le bien commun. Moi, pour le bien commun, il y a aussi besoin de développer les urgences hospitalières. Il y a, là, en ce moment, il y a une grève, hein, parce que, y compris dans les urgences, ça craque. Il y a besoin de rénover des hôpitaux, des écoles, il y a besoin de rénover les chemins de fer. Pour le bien commun, il y a fort à faire, hein, fort à faire. Et justement, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ce mouvement des Gilets jaunes et ces grèves qui régulièrement. Donc, il y a fort à faire. Et moi, ce que je constate, c'est que là, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent. Il n'y a même pas d'argent, regardez, pour la dépendance. Il nous explique, hein, regardez la misère des EHPAD. Hein. Là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais d'argent pour tout ça. Alors, pour le bien commun, il n'y a pas d'argent. C'est ça. Et effectivement, là, il y avait une possibilité pour eux d'avoir toutes les caméras du monde, hein, de faire un geste retentissant, et je crois qu'effectivement, ils l'ont utilisé. Je pense que leurs services de pub ont été fort contents, parce qu'au bout du compte, ça a été... voilà, je pense que ça a déjà eu des répercussions.
Alors, tout autre sujet, c'est l'Europe a du mal à gérer le problème des migrants. Quelle solution proposez-vous concrètement? Parce que certains proposent de rétablir des frontières beaucoup plus strictes. Quelles sont les solutions que vous préconisez?
Vous vous rendez compte, l'Europe a du mal à gérer le sort de...
C'est la vérité.
Quelques... Mais oui, mais parce que justement, c'est un choix. C'est un choix de rejeter les migrants. C'est un choix de condamner à l'enfermement dans des pays qui sont à feu et à sang, où c'est la misère, hein, des peuples entiers. C'est ça, la réalité. C'est aussi de la démagogie, parce que effectivement, depuis des décennies, hein, étant donné qu'il y a cette crise, étant donné qu'il y a ces reculs sociaux, étant donné que ici, dans les pays les plus riches, il faut se battre pour tout, pour trouver un boulot, pour trouver une place en crèche, il faut se battre pour tout. Il y a des réflexes de repli sur soi, des réflexes de rejet de l'autre, hein, et évidemment, tous les politiques, eh bien, ils s'engagent dans cette voie-là. Hein. Les migrants, c'est vu comme une menace. Eh bien, écoutez, nous dénonçons ça. Et moi, je dois vous dire que ça me révolte. Ça me révolte parce que vous voyez comment le capitalisme transforme tout, y compris ce qui pourrait être une bonne nouvelle, en menace. Parce que des femmes et des hommes qui viennent dans notre pays pour se remonter les manches et pour bosser, eh bien, ça devrait être vu comme quelque chose de positif. Eh bien non, là c'est vu comme quelque chose de négatif, parce qu'encore une fois, on nous met en concurrence et on nous oppose les uns les autres.
Donc il faut accepter tout le monde.
Moi je suis, vous savez, moi j'ai eu la conscience aiguë dès 13-14 ans, que j'aurais pu naître partout sur cette planète. Ça a été le hasard pour moi de naître en France. Mmh. J'aurais pu naître dans un pays où effectivement, peut-être que je n'aurais pas pu vivre. Hein, donc ce droit de circuler, ce droit d'aller gagner ma vie ailleurs, hein, de trouver une perte, eh bien, je le reconnais à tout être humain sur cette planète. Moi, je pense que le droit de libre circulation et de libre installation doit être donné à tout être humain sur cette planète. Et je pense que c'est le sort des travailleurs. Vous savez, quand on est pauvre, eh bien, on est condamné à aller là où il y a du boulot, en réalité. On n'a pas de... Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça, c'est le sort des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous, qui nous plaçons du point de vue des travailleurs, nous disons, on n'a pas à considérer qu'un autre travailleur étranger d'une autre nationalité, d'un autre continent, est un ennemi. C'est avec lui qu'il faut effectivement qu'on se batte. Chacun doit pouvoir gagner son pain dans cette société et dans ce monde-là, et dans ce monde riche. Hein, et quand j'entends les uns ou les autres nous dire « Ah oui, mais attention, on n'a déjà pas de boulot », mais ce n'est pas le migrant. Les migrants qui ont fermé Ford ou qui ferment à PSA, à Herimoncourt, vous savez que même PSA, hein, un grand groupe qui prospère aujourd'hui, ferme des usines. Mmh. Ce n'est pas les migrants qui suppriment les emplois chez Carrefour ou à la Société Générale. Donc, ces suppressions d'emplois, c'est cette classe capitaliste qui en est responsable. Il y aurait de quoi embaucher, il y aurait de quoi créer du travail pour tous, répartir le travail, changer la vie du monde du travail. Mais ça veut dire effectivement prendre sur ses
profits. Une dernière question très courte d'Alain Barreau.
Toujours sur le même sujet, le pape François appelle à l'accueil des migrants, mais en même temps il reconnaît que les États ont le droit d'avoir des politiques différenciées.
Ben oui, ben écoutez, moi je ne me pose pas le problème. Vous savez d'abord, alors je ne veux pas non plus faire de la morale, mais la responsabilité des pays riches vis-à-vis de l'Afrique, elle est là. Pendant des décennies, ces pays ont été pillés. Et ça continue d'ailleurs, et ça continue. Parce qu'en réalité, ces grands groupes qui continuent effectivement d'imposer leurs marchandises, leurs conditions, etc., font que les petits agriculteurs qui arrivaient à survivre encore jusque-là n'y arrivent plus et sont obligés de partir. Vous savez, c'est des peuples entiers qu'on exproprie en permanence en réalité, qui n'ont pas le choix. Alors nous, on se place de ce côté-là, voilà. Et on dit aux travailleurs, on ne s'en sortira pas si effectivement on ne prend pas nous-mêmes en main cette économie, cette société, ces grands groupes, parce qu'il y a de la place pour tous dans
Alors,
cette société.
Nathalie Arthaud, je vais vous demander de conclure. Je vous offre généreusement 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs pour l'Europe que vous souhaitez?
J'ai envie de leur dire que l'Europe a unifié finalement le sort des travailleurs dans le chômage, dans les petits boulots, dans les bas salaires et les petites pensions de retraite. Et changer cela, ça dépend effectivement de la mobilisation et de la conscience de tous les travailleurs. Ça dépend de leur conscience qu'ils ont effectivement à contester cette classe qui domine avec ses capitaux, avec son argent, ses grands groupes industriels et financiers. Ça passe par leur combat et j'espère qu'ils seront nombreux à faire ce geste de dire bah oui, notre camp, il est là et on se prépare effectivement
Merci Nathalie Arthaud et merci à nos deux amis.